Oui.
Je crois qu'on est tous d'accord. Pauline Glaise, chef du service, chef adjoint du service environnement, vous souhaitiez nous parler de désertification, puisque lundi, bien, c'était la journée mondiale de lutte contre la désertification. Alors, on en a un petit peu parlé sur cette antenne, mais le sujet est important et il mérite qu'on l'on y revienne. Juste quelques chiffres, peut-être pour planter un peu le décor. La désertification provoque chaque année la dégradation de 12 millions d'hectares de terre et affecte 40% de la population mondiale. L'Afrique, bien que particulièrement touchée, eh bien, n'est pas le seul continent concerné, Pauline.
Et non, cela n'est pas une évidence, mais en fait, il y a de très très nombreux pays dans le monde qui sont affectés par le phénomène. J'étais assez frappée par le chiffre, d'ailleurs. Alors, je ne vais pas jouer aux devinettes, mais parmi les membres de la Convention cadre des Nations Unies contre la désertification, celle qui organise la COP désertification, eh bien, il y a 169 pays qui sont concernés. Parce qu'il faut rappeler aussi que quand on parle de désertification, en fait, on ne parle pas de l'avancée des déserts. L'empiètement des dunes de sable sur la Terre peut en faire partie. Mais quand on parle de désertification, on parle plus globalement de la dégradation persistante des écosystèmes, des zones arides et semi-arides. Et c'est provoqué par les activités humaine principalement, l'exploitation des sols par exemple et le réchauffement climatique. À cela peuvent s'ajouter aussi des phénomènes naturels comme les vents ou le ruissellement des pluies. Et l'une des régions particulièrement concernées, eh bien, c'est l'Afrique subsaharienne, notamment le Sahel, la Corne de l'Afrique avec la Somalie, l'Éthiopie et l'Érythrée. Si on va plus au sud, Madagascar, l'Afrique du Sud, le Botswana sont également concernés par la dégradation des sols. La liste n'est évidemment pas exhaustive, je ne vais pas vous faire les 169 pays, mais ailleurs dans le monde, la Chine ou l'Australie sont concernées et le Mexique également sur une des cartes présentées. Il apparaît vraiment en rouge. Il est particulièrement concerné par la dégradation des sols.
Concrètement, Pauline, quelles sont les conséquences de cette dégradation des sols justement ?
Eh bien, ça a un impact en particulier sur la production agricole, sur l'élevage, sur les produits forestiers. Or, on parle souvent de régions rurales, donc la désertification contribue à l'appauvrissement des populations. Elle augmente l'insécurité alimentaire, car sur les terres abîmées, bien évidemment, elles sont moins productives, voire plus productives du tout, et donc on peut plus cultiver. Et puis après, c'est un cercle vicieux, car les populations n'ont parfois pas d'autre choix, en fait, pour se nourrir que d'exploiter une terre qui avait pourtant besoin de repos. Et cela peut être l'une de leurs rares ressources, mais cela accroît encore le risque de désertification.
Et puis quand la terre ne donne plus, on est tenté de rajouter des pesticides, des intrants chimiques, ce qui dégrade encore plus, évidemment, la terre. Ceci dit, ce n'est pas irréversible, Pauline.
Alors, pas toujours, en tout cas. En fait, l'idée, c'est déjà de faire en sorte de ne pas surexploiter les ressources, mettre en place une bonne gestion de l'eau, par exemple, pour éviter l'accélération de la désertification. Une autre mesure pour limiter les risques, ça peut être des systèmes coupe-vent. Alors, système coupe-vent, ça peut être simplement des haies ou des murets, car le balayage des vents, en fait, ça accroît encore le problème. Et puis, on peut essayer de reboiser avec des succès parfois mitigés. Et l'ONG World Vision promeut, elle, plutôt la régénération naturelle assistée. Alors, Kesako, eh bien, c'est une technique mise au point par un agronome australien, Tony Rinaudo. Camille Romain-Desbeau, la directrice générale de World Vision France, nous explique le principe.
Il faut déjà observer et écouter les anciens. Y a-t-il eu avant une forêt ou pas ? Et observer. Si on voit déjà des souches, si on voit des rejets d'arbres, il faut les identifier, les sélectionner, les accompagner en les taillant pour leur permettre aux rejets les plus solides en fait de repartir. C'est également protéger des animaux, protéger du brûlis. Il y a des endroits qui sont malheureusement quand même très abîmés et la technique prendra sans doute un peu plus de temps pour fonctionner. Mais globalement, le principe est le suivant. S'il y a eu des forêts, il peut y avoir une forêt. Et on le voit sur des terres qui étaient quand même fortement dégradées, en Éthiopie notamment, et en Ouganda et au Ghana, les sols se sont régénérés, les forêts sont reparties.
En fait, il s'agit simplement, Igor, de donner un coup de pouce à la nature. L'avantage, selon elle, par rapport au fait de replanter des arbres, d'autres arbres, eh bien, c'est que les végétaux qui se relancent ont déjà un système racinaire. Cela les rend plus résistants, en fait, que de remettre de nouveaux arbres qui ont des racines peut-être plus fragiles et qui ne sont pas déjà implantés dans le sol.
Pauline, un mot sur la Grande Muraille Verte, hein, ce projet phare du continent africain qui s'étend du Sénégal à l'ouest à Djibouti à l'est pour stopper l'avancée du désert et lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté.
Ouais, c'est une initiative qui avait été lancée par l'Union africaine en 2007. Vous l'avez dit, l'envergure est immense, 8000 km à travers tout le continent pour ériger cette grande muraille verte. Mais à ce jour, environ 18% seulement de l'objectif à 2030 aurait été réalisé.
C'est pas beaucoup parce que les objectifs, c'était 100 millions d'hectares de terre restaurés d'ici à 2030. On est donc loin du compte. Affaire à suivre, on peut peut-être préciser qu'il y aura la COP désertification qui se tiendra à Riyad en Arabie Saoudite en décembre, parce que, chers auditeurs, il n'y a pas que la COP climat, il y a aussi la COP biodiversité et la COP désertification. Des décisions seront peut-être prises en ce sens. On suivra, nous, évidemment, au service environnement de RFI. C'est la fin de cette émission. Vous l'avez compris, merci à vous, Pauline Glaise. Merci à tous d'être venus participer à ce club. Merci à Caroline Fillette et Victor Hull. Demain, vous retrouvez Anne-Cécile Bras derrière ce micro pour la rediffusion d'une émission sur les réparties écologiques en milieu hostile. À suivre un aujourd'hui.
RFI Planète Radio en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement.